Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Patrick Tegereau, responsable du bureau RTL à Toulouse, et j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur une affaire que je connais bien pour y avoir consacré de nombreux reportages. L'énigme de la disparition de Suzanne Viguier. Nous sommes en février 2000. Suzy Viguier a 38 ans. Elle est professeure de danse dans la banlieue toulousaine et mère de trois enfants. Clémence, 10 ans, et les jumeaux, Nicolas et Guillaume, 7 ans. Elle est membre d'un club de tarot où elle a rencontré son amant, Olivier Durandet. Elle prépare son divorce avec son époux, Jacques Viguier, un professeur de droit brillant. Le 3 février, elle va voir une assistante sociale et elle vérifie son testament chez son notaire. Le 24, elle prend rendez-vous avec son avocat pour le 28 février. Deux jours plus tard, elle passe la soirée au club de tarot et une partie de la nuit avec son amant. Son mari affirme l'avoir entendu rentrer chez eux dormir. Mais personne ne reverra Suzy Viguier. Dans cette affaire hors norme, qui a passionné et qui passionne encore tous ceux qui s'intéressent au mystère policier, pas de cadavre, pas de preuves, pas d'aveu, mais un coupable idéal aux yeux des enquêteurs. Jacques Viguier, le mari de la victime, jugé et même incarcéré pour le meurtre de son épouse. Notre voix du crime est maître Georges Catala, ténor du barreau de Toulouse. Il a défendu Jacques Viguier pendant son premier procès qui s'est tenu devant les assises de Haute-Garonne en 2009. Maître Georges Catala, bonjour. Connaissiez-vous Jacques Viguier avant que vous le rencontriez à l'issue de sa garde à vue ?
Non, je ne savais pas qui il était. Je savais que c'était, puisqu'on me l'avait dit, un professeur de droit brillant. Lorsque je l'ai rencontré au printemps, puisqu'il s'agissait de sa sortie de garde à vue, je pense qu'il était 6 ou 7 heures du matin, j'ai eu l'impression de rencontrer un homme en plein désarroi, très perturbé, mais qui manifestait à l'évidence une immense sincérité et qui était un peu comme un animal pris dans une souricière.
Ce que vous appelez souricière, c'est qu'il vient d'être entendu en garde à vue parce que sa femme a disparu, mais que très vite, dans la tête des policiers, il est suspect.
Oui, lorsque l'on va entendre Jacques Viguier, tant la police que le juge d'instruction, on va être arc-bouté sur un a priori terrible, c'est que c'est lui et personne d'autre. Or, quand on regarde le dossier, il est vide. Quand on regarde des preuves irréfutables, il n'y en a pas. Quand on est à la recherche d'un commencement de présomption, on ne le trouve pas. Et en définitive, c'est cette espèce d'intuition policière qui consiste à dire et à faire que même s'il n'y a pas de preuves, même s'il n'y a pas d'éléments qui viennent confondre la personne que l'on suspecte, tout va s'arranger au niveau de l'aveu. Bien entendu, Jacques, qui est innocent, ne va rien avouer du tout, malgré les pressions. La garde à vue va durer le temps qu'elle devait durer. Mais nous dit le commissaire de police, il nous dit, moi quand j'ai entendu Jacques, il n'a rien voulu dire, il a caché sa culpabilité. Mais à un moment donné, on est allé fumer une cigarette dans le couloir, et c'est là, mais on nous dit ça en pleine audience publique, hein. Et c'est là où Jacques a eu une faiblesse, j'ai vu dans ses yeux qu'il était prêt à reconnaître, et à demi-mot, il m'a semblé qu'il aurait reconnu les faits. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Une procédure qui est par définition écrite, une intuition policière qui ne vaut rien, et des aveux qui n'en sont pas, et on se sert de ça pour dire que nous étions aux portes d'une situation qui consistait à voir ce professeur de droit avouer les faits.
Alors revenons sur la disparition de Suzanne Viguier. Le 26 février 2000, elle part jouer au tarot une partie de la nuit. Jacques Viguier affirme qu'elle est bien rentrée dormir sous leur toit. Mais pourtant, personne ne revoit Suzanne Viguier. Alors que s'est-il passé ce matin-là ?
C'était Jacques qui surveillait et qui était auprès de ses enfants. La maman étant partie jouer au tarot toute la nuit, elle rentre à 4h30 du matin. Jacques soutient ce qui est la démonstration du fait qu'il était très partisan de vérité. Jacques soutient qu'il a entendu rentrer, qu'il a entendu les talons claquer. Si cet homme avait été coupable, il aurait suffi de dire qu'il n'a rien entendu du tout pour qu'on mette en doute la venue de cette fille dans le foyer et que par voie de conséquence, on aille chercher ailleurs.
Jacques Viguier dit aussi avoir aperçu sa femme le matin, dormant à côté de sa fille dans le lit de la chambre d'amis.
Oui, je crois que c'était aux alentours de 7-8 heures du matin. Il a jeté un coup d'œil dans la chambre et il a aperçu deux silhouettes, une petite silhouette de la gamine qui était allée auprès de sa maman comme elle avait l'habitude de le faire, ce qui laisse supposer que d'abord Suzy est rentrée dans la maison, dans sa maison, à 4h30 du matin, et qu'elle se trouvait en train de dormir jusqu'à 8h30 du matin, étant entendu que les instructions qu'elle donnait lorsqu'elle passait toute la nuit dehors consistaient à exiger qu'on ne la réveille pas avant 1h30 de l'après-midi. Tant et si bien que Jacques s'est plié à ses directives.
À 10h du matin, le père de Jacques Viguier arrive. Il doit s'occuper des enfants.
C'est ça, il arrive. Il était convenu que les enfants allaient être pris en charge par le grand-père, qui devait les amener pas très loin, dans un jardin public qui se trouvait à peu près à demi-heure de la maison. Et les choses ont été faites de cette façon. À 10h30 du matin, le père s'est pointé avec sa voiture, il a pris les trois enfants, il les a amenés au jardin public. À partir de ce moment-là, la maison est vide par les enfants, et il y a Jacques qui travaille et Suzy qui dort.
Ensuite, Jacques Viguier sort faire un footing, dit-il. Puis, à la mi-journée, il part rejoindre ses enfants au domicile de ses parents. La journée se passe tout à fait normalement. Et ce n'est que 3 jours plus tard que Jacques décide de signaler la disparition de Suzy, le 1er mars. Pourquoi un tel délai? Il ne s'est pas inquiété avant?
Si Jacques est allé en toute sérénité déclarer la disparition de Suzy, c'est parce qu'à l'évidence, l'heure venait de faire cette déclaration. Suzy avait l'habitude de s'absenter. Ce n'était pas la première fois. Or, nous étions dans une période où le couple chancelait, où il y avait, entre le mari et l'épouse, une distorsion évidente, où chacun partait de son côté. Il savait que Suzy était aspirée par autre chose. Elle était aspirée par un personnage qui s'appelait Olivier, qui était l'amant de cœur, qui n'hésitait pas à fréquenter le foyer, qui n'hésitait pas à rencontrer les enfants. Bref, la journée du dimanche était placée davantage sous la rubrique amant que la rubrique papa. Et le fait que Suzy ait disparu pendant quelques poignées de jours ou quelques poignées d'heures n'était pas là pour affoler la France entière puisqu'elle en avait l'habitude.
Parallèlement, cet amant, Olivier Durandet, va tenter de contacter Suzanne Viguier. C'est lui qu'elle a vu la nuit précédant sa disparition, c'est ça?
Suzy va quitter son amant aux alentours de 4h30 du matin, 4h30. Auparavant, après avoir joué au tarot, ils vont se rencontrer au domicile de l'amant. L'amant ramène Suzy au domicile conjugal. Il était établi, c'est l'amant qui le dit, qu'à 1h30 de l'après-midi, lorsque Suzy daignerait bien se réveiller, il lui appartenait de téléphoner à l'amant pour dire « Voilà, mon mari est parti, je suis tout à fait disponible et par voie de conséquence, on se voit. » Or, les analyses téléphoniques révéleront que Suzy a téléphoné à un ami, mais ce n'était pas Olivier. Et Olivier ne sera jamais sollicité par Suzy, ce qui nous permet de dire que Olivier aurait dû avoir une certaine réaction. Il donne un rendez-vous téléphonique à 1h30 de l'après-midi. À 1h30 de l'après-midi, aucun coup de téléphone venant de Suzy n'intervient. Et par voie de conséquence, il est en droit de dire « Qu'est-ce qui se passe ? Je vais retéléphoner, en tous les cas je vais téléphoner, je vais demander des comptes à ma copine, je vais lui demander pourquoi elle ne téléphone pas, ce qui se passe ?» Rien de cela ne sera fait. Il va y avoir un silence assez préoccupant de midi jusqu'à 5h30 de l'après-midi, heure à laquelle, tout à coup, pour des raisons qui échappent un peu à notre entendement, Olivier, qui pourtant aurait dû être sollicité tout l'après-midi par Suzy et aurait dû être curieux de son silence, Olivier va multiplier les coups de téléphone, n'en en plus finir, 15-20 je crois, pour demander des nouvelles de Suzy. Et là, il va rencontrer le silence vaste et noir, aucune réponse du téléphone de Suzy.
On l'a compris, Jacques et Suzanne Viguier ne forment pas un couple très uni. Suzanne a donc un amant Et Jacques aussi était infidèle.
On va dire que c'était un homme qui était, à raison de sa position de pédagogue brillant, il exerçait une certaine fascination vis-à-vis de ces jeunes femmes qui considéraient qu'il parlait bien, qu'il était sympa, etc., etc. Et bien entendu, Jacques n'a jamais refusé de côtoyer de près certaines de ses étudiantes. Dans ce cadre-là, il a rencontré Suzy.
Selon les enquêteurs, Suzanne Viguier a pu être assassinée par son mari parce qu'elle voulait divorcer. D'autant plus que le lendemain de sa disparition, elle devait avoir rendez-vous avec un avocat. Vous n'avez jamais cru à cette piste. Le couple qui se délite, le mari qui n'accepte pas l'existence d'un amant.
Disons que le fait qu'elle aille voir son avocat le surlendemain de sa disparition ne peut pas être évoqué comme une cause déclenchante de sa disparition. On ne peut pas dire que ce soit un couple Louis-Philippard. On est obligé de considérer que c'était un couple qui avait eu une période de fusion. Ils se sont sans doute beaucoup aimés, ils ont fait des enfants qu'ils aimaient tous les deux. On peut considérer également qu'il y a eu un phénomène de lassitude, que Jacques est allé de son côté, qu'elle-même ne s'est pas privée d'aller ailleurs, et que par voie de conséquence, officialiser une rupture, et l'officialisation d'une rupture, c'est le divorce. Il n'y avait pas de quoi se rouler par terre, ni d'un côté, ni de l'autre. Au contraire, c'était un bien de paix qui pouvait être codifié dans le cadre d'une procédure très simple. Et par voie de conséquence, lorsque l'on nous dit que Jacques aurait tué Suzy parce que le divorce était inéluctable, c'est une crise de rire dans la mesure où mon idée est que le soulagement venait précisément du fait que Jacques allait être libre officiellement et Suzy qui avait... un point d'accroche incontestable aurait été libre de son côté et on aurait trouvé un terrain d'entente pour les enfants. Donc le mobile, car il fallait en chercher un, concernant le divorce, disparaît complètement, il est complètement irrationnel.
Vous avez une autre hypothèse. Suzanne était dépressive et aurait pu vouloir disparaître.
Le dossier révèle que Suzy était une femme de qualité, très active, elle dansait... Elle animait des soirées dans des bars, des boîtes de nuit. Bref, c'était une femme très extravertie. Mais en même temps, on a trouvé par exemple dans son sac de la benzodiazépine, c'est-à-dire un médicament qui est là pour équilibrer l'humeur et éviter de plonger dans la dépression. Des témoins viendront dire qu'elle était dans la drogue. Et qu'elle aurait dit à ce témoin « je fais tout pour m'en sortir ». Est-ce que ce témoin a travesti les propos de Suzy ? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que l'on voit apparaître une fille assez névrotique, assez déséquilibrée, qui a une béquille de médicaments et qui aurait pu, ne trouvant satisfaction ni d'un côté ni de l'autre, mettre fin à ses jours, c'est-à-dire disparaître dans des conditions qu'elle-même a choisies.
L'enquête, au contraire, va donc plutôt s'orienter vers une culpabilité de Jacques Viguier, et pour vous, c'est une enquête à charge. Mais un élément intrigue dans son emploi du temps, c'est le fameux footing. Des témoins rapportent que ce n'est pas dans ses habitudes. Et lors de la reconstitution, c'est un élément qui va jouer un rôle important.
C'est là où j'ai compris que Jacques Viguier pouvait avoir un comportement dangereux vis-à-vis de lui-même. Et donc, par voie de conséquence, rien n'était calculé dans son comportement. Et c'est là où j'ai compris qu'il était parfaitement innocent. L'hypothèse était la suivante. Jacques Viguier dit à 11h moins le quart, je mets mes baskets, je mets mon short, je vais courir. Très bien. Les policiers disent non, pas du tout. À 11h moins le quart, il ne va pas courir, il va tuer sa femme. Et ça va durer un certain temps. Donc Jacques avait tout intérêt, lorsqu'il prétexte le footing, de faire durer ce footing le plus longtemps possible, parce que quand il était au champ, il ne pouvait pas être à la vigne. C'est bien compréhensible, dans la mesure où il courait, il ne pouvait pas tuer sa femme, et surtout la transporter, la faire disparaître, etc., parce qu'il faut quand même être zélé et aller vite. Donc l'intérêt de Jacques, c'était de faire durer le footing. Or, le voici en ma présence, et en présence de deux policiers zélés, qui couraient à ses côtés, se mettre à courir, mais comme un lapin. C'est-à-dire que ce qu'il aurait pu faire durer pendant, disons, une heure et quart, il va le boucler en demi-heure. Donc c'est quand même la démonstration que même un professeur de droit peut-être d'une sincérité affligeante.
Il y a aussi ce matelas clic-clac sur lequel dormait Suzy. Jacques Viguier l'a jeté à la déchetterie après la disparition de sa femme et ça a été considéré comme une volonté de maquiller son crime.
Vous savez, si on ne met pas ce matelas dans un contexte conjugal, on ne comprend rien. Mais le contexte conjugal était le suivant. Durandet se présentait très souvent dans le domicile de Jacques. Jacques, pendant un moment, a considéré que c'était un ami sincère. Seulement Durandet profitait de cette amitié, si je puis dire, pour se livrer à des galipettes sur sa femme. Petit à petit, notamment dans le cadre de l'enquête, Jacques s'est aperçu que ce fameux clic-clac était utilisé par son épouse et Durandet pour faire ce que l'on pense, que je n'ai pas à réprimer ni à juger, mais qui était quand même fait sous le toit conjugal. Et donc Jacques m'a dit, je l'ai toujours cru, moi quand j'ai appris ça, j'ai eu un sentiment exacerbé de trahison, et le matelas, je ne l'ai pas jeté, je l'ai rejeté, il symbolisait, si vous voulez, cette espèce d'échec qui n'était pas uniquement à cause de sa femme, mais un échec conjugal qui était incommensurable, et par voie de conséquence, on prend le matelas et on le jette.
Des traces de sang sont aussi découvertes au domicile des Viguier.
Voici une maison qui est habitée par trois enfants, une femme et un homme. La police scientifique arrive et va considérer que dans la mesure où l'on va trouver au pied de la salle de bain, me semble-t-il, sur une rampe d'escalier et à portée de la douche, trois ou quatre croûtelles de sang à dose infinitésimale, on tient la preuve qu'il s'est passé dans cette maison quelque chose de sanglant. Quand on dit que s'il y a une scène de crime qui s'est passée dans une petite maison telle que j'ai pu la visiter, dans des petites pièces, dans un escalier qui se trouve au milieu de la maison, à l'évidence, ce n'est pas une croûtelle de sang qu'on va trouver, c'est des traces de sang qui apportent la démonstration qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement violent. Or, ceci, on ne le trouve pas, on ne le recherchera pas, on ne le trouvera jamais. Nous étions en 2000 et il était facile pour la police scientifique d'apporter le regard du Blue Star, le détecteur de scènes de violence, parce que même si on a nettoyé une scène de violence avec de l'eau de Javel ou tout ce que vous voulez, le Blue Star permet de rendre une certaine luminosité, si je puis dire, aux traces de sang. On ne l'a pas fait.
Jacques Viguier est mis en examen et écroué le 10 mai. Il va rester en prison pendant 9 mois. Comment vit-il cette période ?
Comme vous le savez, la grande tarte à la crème qu'on nous assène, et qu'ont assénée tous les professeurs de droit d'ailleurs, c'est la présomption d'innocence. Et malgré cela, on va le mettre dans ce grand navire mort qui sent la Vespasienne, c'est-à-dire la maison d'arrêt. Dans le cadre de la maison d'arrêt, il est coupé de tout, de ses enfants, de sa raison de vivre, c'est-à-dire l'enseignement, de sa raison de vivre, c'est-à-dire ses enfants. Et par voie de conséquence, on le met au placard, malgré toute une série d'arguments que nous mettons en avant devant le juge d'instruction et devant la chambre d'accusation. Car à partir du moment où on met Jacques Viguier en prison parce que c'est le mari, est-ce que nous avions le droit de penser qu'il eût été utile de se pencher également sur le rôle de l'amant ? Or, il faut savoir, et c'est un autre scandale, que personne, je dis bien personne, n'a eu la curiosité de savoir où était l'amant dans cette fameuse journée. On n'a pas cherché à savoir quel était son emploi du temps. On aurait dû lui demander pourquoi, alors qu'il devait être sollicité par un coup de téléphone à 1h30 de l'après-midi de Suzy, il n'a pas tenté de relancer les choses, de téléphoner. Qu'a-t-il fait entre 1h30 et 5h30 de l'après-midi ? Nous n'en savons rien. Cette espèce de mise à l'écart de l'amant nous a beaucoup tracassés.
Le procès de Jacques Viguier se tient en avril 2009. Quelle est l'ambiance ?
Il se présentait libre, je me souviens. On avait fait les 400 ou 500 mètres qui séparaient mon cabinet du palais de justice. Et là, la meute, on savait qu'elle serait dedans, mais on pensait que dehors, il n'y aurait plus de modération. des micros, des caméras, des tout ce que vous voulez, qui venaient, allez, disons-le, tenter de mettre à poil cet homme pour savoir si c'était le monstre qu'on avait décrit ou si c'était tout autre chose. Et donc l'ambiance était très préoccupante.
Et Jacques Viguier, comment se sent-il à ce moment-là ?
Son état de santé ne lui permettait pas de maîtriser ce procès. Il était absent, il était étranger. Simplement, le réconfort qu'il trouvait là-dedans, disons les béquilles qui existaient dans ce procès qui le dépassait, c'était d'une part ses avocats, mais surtout les enfants. Les enfants qui ne l'ont jamais abandonné. Les enfants qui ont considéré qu'il était impossible que le père ait pu faire cela. Des enfants qui, d'entrée, ont acquitté Jacques, ce qui m'a permis de dire à la fin de ma plaidoirie que puisque les enfants avaient acquitté leur père, il n'appartenait pas à la justice des hommes de le condamner. Il y avait dans ce procès une ambiance très lourde parce que l'on sentait qu'il y avait une atmosphère de chasse à cour avec une meute affamée. Vous aviez en tête de proue, si je puis dire, en tête de meute, l'homme en rouge. Et puis ensuite, vous aviez les policiers qui venaient les uns après les autres sans discontinuer, nous dire tous la même chose, c'est-à-dire, pour moi, il est coupable. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? On doit également se soucier du fait que la personnalité de celui qui est accusé, est-ce que cette personnalité répond à des faits de violence ? Et là, nous avions, je crois me souvenir, toute une crielle de témoins qui viendront dire, surtout des gens simples, des gens de qualité, des gens de la Haute-Ariège, des gens enseignants qui viendront dire que jamais on a assisté à un geste de violence. Il était extrêmement généreux, extrêmement convivial, mais cela ne veut rien dire, parce que on peut avoir des gens généreux et conviviaux qui peuvent passer à l'acte pour des raisons obscures. Alors l'accusation est allée chercher refuge chez les psychiatres. Bref, nous avons eu les plus grands psychiatres de France au nombre de 2 et ils sont venus dire que rien dans sa personnalité, rien dans son passé, rien dans son comportement, rien dans ses réponses, rien dans les tests qu'on y a soumis ne peuvent permettre de dire que cet homme était déterminé à faire du mal à quelqu'un, notamment à sa femme. Autrement dit, les psychiatres sont venus soutenir la thèse de la défense selon laquelle, si c'est lui, prouvez-le. Si vous me montrez des éléments qui sont déterminants, nous analyserons alors la personnalité de cet homme et nous nous interrogerons sur le fait de savoir si c'est crédible ou pas. La réponse a été faite de 2 façons, aucun élément dans le dossier et aucune prédisposition dans la personnalité. Là aussi, la messe était dite.
Quel verdict ce soir pour Jacques Viguier, accusé d'un meurtre sans preuve ni cadavre.
Dans quelques heures après l'ultime plaidoirie de la défense, les jurés se retireront pour dire si oui ou non le professeur de droit de Toulouse a tué sa femme. Hier, l'avocat général a réclamé 15 à 20 ans de réclusion. Pas de preuves, mais selon lui, des indices très convaincants. Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL.
Chargé aux antidépresseurs, Jacques Viguier avait encaissé avec difficulté les 3 heures du réquisitoire de l'avocat général, implacable et mécanique. Mais il a suffi que le premier de ses avocats, Georges Catala, évoque un homme aujourd'hui pitoyable, incapable de se défendre, mais qui a tenu debout 9 ans pour que Jacques Viguier s'effondre en larmes. Et quand Georges Catala le constate, il a ces mots « Merci de pleurer enfin ».
Cet homme était engoncé dans une sorte de cuirasse qui ne laissait nullement passer ses sentiments.
C'était important pour vous qu'il montre ce visage-là ?
Ça me paraissait essentiel.
Après 10 jours d'audience, vous plaidez avec Maître Henri Leclerc. Il y a ce moment où Jacques Viguier pleure. C'est un moment très fort. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ? Vous êtes plus confiant ?
Les gens croient que quand on a fini, on va boire quelque chose. Non, on a le doute qui nous crève les tripes. On est dans l'attente de résultats d'un travail qui dure depuis, pour ce qui me concerne, 10 ans. Et donc j'étais dans un état de stress incommensurable. Je vais chez moi pour me reposer un peu. Et très rapidement, on me téléphone pour me dire « ça y est, ils vont rentrer ». Rentre à terre, je vais devant la cour d'assises, tout le monde était prêt, on arrive, la cour d'assises arrive. Et là, je vois le président, qui avait d'ailleurs tenu les débats d'une façon objective et remarquable, ce qui est à l'honneur de la justice. Je vois le président qui dit la cour et le jury, après en avoir délibéré, considèrent Jacques Viguier innocent, acquitté. Comment voulez-vous que... Allez, on va le dire, qu'on n'ait pas envie de chialer. Jacques, petit à petit, va se rendre compte quand même que le verdict est extrêmement favorable puisque c'est un acquittement et par voie de conséquence, il va sortir petit à petit de la brume dans laquelle il se trouvait pour réaliser les choses.
Les infos de 15h sur RTL, c'est Odile Pouget. Bonjour Odile.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et tout de suite, ce verdict surprise au procès de Jacques Viguier. La cour d'assises de Haute-Garonne a acquitté il y a quelques minutes le professeur de droit poursuivi pour le meurtre de son épouse. On rejoint tout de suite Patrick Tégéraud. Patrick, vous avez suivi ce verdict, un verdict accueilli par des applaudissements.
Oui, des applaudissements. Dès que le président a annoncé que Jacques Viguier était acquitté, celui-ci avait remis sa veste. Il avait un petit peu froid quand il attendait la décision, assis sur le banc des accusés. Je vous propose de l'entendre, ses premiers mots d'homme enfin soulagé.
Je remercie le jury aussi, qui a vu la vérité. Et là, maintenant, je vais m'occuper de mes enfants, je vais rentrer à la maison tranquillement. Voilà, extraordinaire. Mes enfants sont extraordinaires. Vraiment, pour un père, c'est fait chaud au cœur de voir comment ses enfants se comportent dans une épreuve aussi difficile.
Juste 2 heures de délibéré seulement, les jurés n'ont pas hésité à donner l'acquittement à Jacques Viguier, mais rien n'est encore acquis définitivement puisque le parquet peut encore faire appel de cette décision.
En effet, le soulagement est de courte durée, car quelques jours après le verdict, le parquet fait appel. Comment réagissez-vous ?
Mais oui, rien n'est jamais acquis. Surtout quand... L'on considère au niveau de la justice qu'on ne peut pas se désavouer car un acquittement, ça porte atteinte à l'institution policière, ça porte atteinte à l'institution judiciaire et ça vexe et ça blesse l'entendement d'un certain nombre de personnes. Donc est-ce qu'il faut faire appel ou pas ? Je pense qu'on aurait peut-être pu éviter cet appel si Jacques avait été moins expansif dans la joie qui était la sienne, bien que je la comprenne tout à fait. Il en a transpiré pendant 10 ans, il est enfin réhabilité, il manifeste sa joie. Et ceci et cela vont faire que le parquet général va décider de faire appel, en promettant, parce que ça je l'ai entendu aussi, on est venu me le dire, que devant la cour d'appel, il allait en prendre plein la pipe. C'est-à-dire que... Cette atmosphère de curé que nous avions réussi à endiguer dans un premier temps allait réapparaître à la puissance 10 devant la cour d'appel.
En appel, Jacques Viguier est aussi acquitté. Quand vous apprenez la nouvelle, comment réagissez-vous ?
Moi, mon idée était qu'il ne pouvait pas naître autrement. Mon idée était que dans la mesure où il était acquitté en première instance, il ne pouvait l'être qu'en appel. Car comment peut-on prendre sa responsabilité de telle façon que un homme qui est proclamé blanc dans une première enceinte de justice soit proclamé noir dans une deuxième, alors que le dossier est le même. Hein. Jacques Viguier, qui est maintenant définitivement acquitté, dans une situation qui reste extrêmement mystérieuse, mais qui, à l'évidence, n'est pas de son fait.
Comment va Jacques Viguier aujourd'hui ?
Je l'ai revu il y a une quinzaine de jours, le hasard a voulu qu'on se rencontre. Nous sommes des gens pudiques tous les deux, donc on n'a pas abordé ces années de plomb. Simplement, on a parlé de cinéma et je crois me souvenir qu'on a abordé un film qui m'avait marqué dans mon enfance, c'est Le train sifflera 3 fois. Et lui, qui a une mémoire d'éléphant, m'a dit « c'est Gary Cooper ». Et moi, je lui dis « c'est Grace Kelly ». Et puis, il y a un type qui chante « Si toi aussi tu m'abandonnes » et tu vas me dire qui est le chanteur. Et il ne le savait pas et je le savais.
Suzanne Viguier, elle, est toujours portée disparue.
C'est un éternel problème où le rationnel se mêle à l'irrationnel. Le rationnel, c'est une disparition qui date de 20 ans sans qu'on ait un quelconque écho laisse à penser que cette femme a disparu d'une façon irréversible. L'irrationnel, surtout dans la tête des enfants, c'est que peut-être que quelque part elle est encore vivante et peut-être que quelque part elle nous donnera un signe de vie et peut-être que quelque part on la retrouvera. Il faut que quelque part il y ait un peu d'espoir.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Voix du Crime sur l'affaire Suzanne Viguier avec maître Georges Catala. Pour le réécouter et découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous laissant une note ou un commentaire.